Bonjour, les saints de la semaine nous amènent du lundi 21 au dimanche 27 juin. Lundi 21 juin, Saint Louis de Gonzague, jésuite, qui mourut en 1591. C'est un saint rayonnant de pureté qu'il nous est donné de fêter. Promis aux plus hautes destinées car il était fils de la haute aristocratie italienne. Il fut d'abord page à la cour de Florence. Il avait 9 ans. Dans cette atmosphère fastueuse et corrompue des cours italiennes de la Renaissance, il répond aux dépravations qui l'entourent par un vœu de chasteté. Il rencontre alors Saint Charles Borromée qui lui donne sa première communion. Envoyé à la cour de Madrid pour parfaire son expérience princière, il revient décidé à devenir jésuite. Il a 17 ans. Son père s'y oppose farouchement, mais doit se plier à la volonté inébranlable de son fils. Novice à Rome, Saint Louis y sera l'élève de Saint Robert Bellarmin. Il multiplie les austérités au point d'avoir un mal de tête lancinant. Il étudie intensément, sa vie spirituelle est alors douloureuse et tourmentée. À 22 ans, il reçoit la révélation que sa vie sera brève. Cette révélation transforme sa vie spirituelle qui sera désormais plus dépouillée, plus sereine, plus abandonné à Dieu. En 1591, la peste ravage Rome. Louis se dévoue auprès des malades et meurt, pestiféré à son tour, à 23 ans, dans l'allégresse, en s'écriant « Quel bonheur !» Patron de la jeunesse et en 1991, le pape Jean-Paul II le déclare saint patron des personnes atteintes du sida. Nous fêtons donc la mémoire de Saint Louis de Gonzague, religieux. Issu de famille princière, d'une pureté de vie remarquable, il abdiqua en faveur de son frère la principauté de Mantoue pour entrer dans la compagnie de Jésus, mais en prenant un pestiféré sur ses épaules pour le conduire à l'hôpital, il contracta le mal et mourut à l'âge de 23 ans en 1591. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Louis. C'est également la Saint Raoul. Il était archevêque de Bourges et mourut en 866. C'était le fils d'un comte de Cahors, donc dans le département du Lot, et il fut évêque de Bourges pendant 25 ans, dans des circonstances extrêmement difficiles. Ses talents de diplomate lui permirent de mener à bien les nombreuses affaires politiques dont il eut à s'occuper, ce qui lui valut d'être appelé alors le père de la patrie. Il fonda plusieurs monastères. Dans l'instruction pastorale, de 45 chapitres qu'il écrivit pour servir de guide à ses prêtres, il leur recommande d'engager les bons chrétiens à communier tous les jours, ce qui était une innovation à son époque. Nous fêtons également une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Raoul, Rodolphe. Mardi 22 juin, Saint Aubin ou Saint Alban, Saint Alban, Saint Albe, qui fut martyrisé à Verulam ou à Verulanium. Les Anglais voient en lui leur premier martyr. Son biographe, Bède le Vénérable, dit de lui qu'il était un païen charitable qui avait recueilli chez lui à Verulanium un prêtre chrétien poursuivi par la police. Celui-ci le convertit et le baptisa. Quand les policiers arrivèrent, ils arrêtèrent Saint Alban qui, pour sauver le prêtre, avait revêtu son uniforme religieux. Il fut alors mis à mort à sa place. En France, le culte de Saint Alban a sans doute été développé par l'évêque Saint-Germain d'Auxerre au 5e siècle. Albanus, en français, Alban ou Auban, quelquefois Albin, est né à Verulam, à 30 km au nord de Londres, et fut martyrisé à peu près vers l'an 304. Le poète Venance Fortunate, qui vivait dans la Gaule méridionale à la fin du VIe siècle, écrivit de lui « La gloire de son triomphe a été si éclatante qu'elle s'est répandue dans toute l'Église. » Il existe un dicton qui dit ceci « À la Saint-Alban, on peut poser ses vêtements. » Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Albin, Aubin, Alban, Alban ou Albe. Mais c'est également la Saint Thomas More. Chancelier du roi Henri VIII d'Angleterre, il fut martyr et mourut en 1535. Fils d'un haut magistrat londonien, il se distingue par son intelligence, sa bonne humeur et sa piété. Une apparente vocation religieuse le conduit à la Chartreuse de Londres, mais il n'est pas fait pour la solitude contemplative, il est bâti pour la vie active dans le monde. Très vite, il se révèle un des plus grands juristes et un des humanistes les plus cultivés de son temps. L'amitié d'Erasme et la publication de l'Utopie, qui est une vision humoristique d'une république idéale, le place au premier rang de la nouvelle culture et des aspirants à un renouveau religieux. Avec cela, son réalisme, sa clairvoyance souriante, le font reconnaître du roi Henri VIII d'Angleterre comme un magistrat exceptionnel. D'où sa promotion aux fonctions de Lord Chancelier du Royaume. Mais les années de rêve dans sa résidence de Chelsea, au milieu d'une nombreuse famille, débordante de gaieté, de ferveur et d'hospitalité, ne se prolongent pas longtemps. Ni sa lucide intégrité, ni sa foi éclairée ne lui permettent de suivre Henri VIII dans le schisme où les errements conjugaux du roi allaient s'engager. Sir Thomas More, fidèle à la foi catholique, bien qu'ayant renoncé à ses hautes fonctions pour garder sa liberté de jugement, paiera de sa tête cette fidélité. Voici quelques phrases tirées de l'Utopie de Saint Thomas More. On me reproche de mêler boutades, facéties et joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec Horace, j'estime qu'on peut dire la vérité en riant. Sans doute aussi convient-il mieux au laïc que je suis de transmettre sa pensée sur un mode allègre et enjoué plutôt que sur le mode sérieux et solennel à la façon des prédicateurs. Nous fêtons également une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Thomas. Mercredi 23 juin, Sainte Ethelred, abbesse, fondatrice d'Ely et qui mourut en 679. Edeltrud, Ethelred ou Audrey. Le grand nombre d'églises anglaises qui portaient son nom jadis montre bien combien cette sainte fut populaire en son pays. Elle vécut à l'époque de l'heptarchie, c'est-à-dire à l'époque où l'Angleterre comprenait 7 royaumes, l'Essex, le Sussex, le Wessex, Kent, Mercy, East Anglia et Northumbrie. Bien qu'Audrey ait désiré garder sa virginité, son père Anna, roi d'East Anglia, ne l'en fit pas moins contracter deux mariages politiquement utiles. Par le premier, elle devint la femme d'un vieillard malade, le prince Tunbert, qui mourut au bout de 3 ans. Restée vierge, Sainte Audrey pensait enfin entrer en religion quand on exigea d'elle qu'elle épousât le prince Egfrid, fils du roi de Northumbrie. Ce n'était qu'un enfant. Quand il fut pubère, il voulut user de ses droits conjugaux, mais la future reine prit la fuite et se retira dans l'abbaye de Cunningham. Egfrid ne poursuivit pas son projet pour trouver femme mieux à sa convenance. Audrey put alors fonder l'abbaye d'Ely, puis en devenir l'abbesse et chanter la louange de Dieu tout à loisir durant des nuits entières. Elle reçut des mains de l'évêque Saint Wilfrid le voile démonial dans le monastère qu'elle avait elle-même fondé et où elle dirigea avec l'autorité d'une mère, par ses exemples et ses avertissements, un grand nombre de vierges. Il existe un dicton qui dit ceci: « Eau de Saint-Jean, peu de vin et pas de froment. » C'est un dicton, proverbe du Poitou. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Audrey. C'est également la Sainte Paul, martyr à Rome au IIIe siècle, et ses compagnons martyrs également Agrippine, Bassa et Agathonique. Nous sommes au temps de la persécution de Dioclétien, et ces jeunes filles romaines ne voulaient que le Christ. Agrippine fut accusée de rébellion et de dissolution morale en refusant le mariage. Elle eut les membres entravés, puis dénudés pour être outragés. Elle fut flagellée jusqu'à en mourir. Paul, Bassa et Agathonique subirent les unes après les autres les mêmes tortures avec le même courage. Nous souhaitons également une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Paul. Jeudi 24 juin, Saint Jean-Baptiste. C'est donc la nativité de Saint Jean-Baptiste au 1er siècle. L'ange Gabriel dit à Marie au jour de l'Annonciation: « Voici qu'Élisabeth, ta parente, en est à son 6e mois. 3 mois plus tard, l'Église fête donc la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Parce qu'un doute l'avait saisi lors de l'annonce de l'ange sur la fécondité tardive de sa femme, Zacharie, l'époux d'Élisabeth, avait perdu l'usage de la parole. La naissance de Jean lui délie sa langue afin qu'elle proclame son nom est Jean, nom qui signifie « Dieu fait grâce ». À Jean, Jésus rendra ce témoignage. Parmi les enfants des femmes, il n'en est pas un de plus grand que Jean-Baptiste. Dès avant sa naissance, Jean avait reconnu le Christ et tressaillit d'allégresse en sa présence. Plus tard, il le baptisera et guidera vers lui ses meilleurs disciples, s'effaçant pour lui laisser la place. « Voilà ma joie, elle est maintenant parfaite. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. » À part la Vierge Marie, Jean-Baptiste est le seul saint dont la liturgie célèbre la naissance. Et elle le fait parce que celle-ci est étroitement liée au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en effet, Jean est le précurseur de Jésus. Sa conception prodigieuse est annoncée par l'ange à Marie, comme le signe que rien n'est impossible à Dieu. La Saint-Jean-Baptiste est la fête nationale de la province canadienne du Québec. Et c'est donc la solennité de Saint-Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur, que nous fêtons. Rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, il exulta de joie à la venue du salut des hommes, et sa propre naissance annonça celle du Christ Seigneur. La grâce brilla tellement en lui que le Seigneur lui-même déclara que parmi les enfants des hommes, il n'en est pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Dans son serment sur la naissance de Jean-Baptiste, saint Augustin dira ceci. Jean naît d'une femme stérile. Il est au terme des prophètes. Le Christ naît d'une jeune vierge. Il est l'avenir, Dieu. La naissance de Jean affronte l'incrédulité et son père devint muet. Marie croit à la naissance du Christ et elle l'engendre par la foi. Saint Jean-Baptiste est le patron des couteliers du diocèse de Belley-Ars, du diocèse de Perpignan, du diocèse de Saint-Jean de Maurienne. Il est également patron des rémouleurs et des tonneliers. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Jean-Baptiste. Vendredi 25 juin, Saint Prosper d'Aquitaine, qui fut un théologien laïc et qui mourut vers 460. Tout ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il naquit en Aquitaine en 428. Il est à Marseille et à partir de 440, il fut rédacteur à la chancellerie, à la chancellerie pontificale de Saint Léon le Grand. Il écrivait très bien et pour faciliter la paix de son ménage heureux, il correspondait en vers avec sa femme. Relève-moi si je tombe, reprends-moi quand je te signale quelque faute. Qu'il ne nous suffise point d'être un seul corps, soyons aussi une seule âme. Il écrivit une histoire universelle, qui est un résumé de celle d'Eusèbe et de saint Jérôme. Il consacre toute son œuvre à défendre saint Augustin, et pour ce faire, il composa la doctrine augustinienne de la grâce en 1002 hexamètres. Il imposa silence aux évêques des Gaules qui déblatéraient contre l'évêque d'Hippone. Et c'est sans doute grâce à saint Prosper qu'Augustin fut reconnu très tôt comme le grand docteur de l'Église d'Occident. C'est donc la commémoration et la commémoraison de saint Prosper d'Aquitaine aujourd'hui. Après une éducation littéraire et philosophique soignée, il mena avec son épouse une vie simple et modeste. Devenu moine à Marseille, il défendit avec force contre les pélagiens la doctrine de saint Augustin sur la grâce de Dieu et le don de persévérance et servit de secrétaire au pape Léon le Grand. Il mourut vers 463. Samedi 26 juin, saint Anselme de Chinien. Il fut évêque de Belley et mourut en 1178. Anselme était né au château de Chinien en Savoie, non loin de Chambéry, et préférera la solitude de la prière avec le Christ à la vie mondaine et chasseresse des grands seigneurs. Il fut moine de Porte, puis de la Grande Chartreuse. Il reconstruisit, effectivement, la Grande Chartreuse, qu'une avalanche avait détruite, et en devint le septième prieur. Ce fut lui qui fonda les premières chartreuses pour les femmes désireuses de mener une vie érémitique. Comme il avait dû punir deux de ses moines qui le méritaient, ceux-ci firent appel au pape Alexandre III, qui d'abord les soutint. Pour que règne la paix, saint Anselme donna sa démission et rentra joyeusement dans le rang. Mais son bonheur dura peu. Le pape, mieux informé, revint sur sa décision et pour comble le nomma évêque de Belley. Il s'était pareillement brouillé avec l'empereur Frédéric Barberousse pour avoir refusé Victor IV, un antipape de fabrication impériale. Là encore, la modestie d'Anselme fut contrariée. L'empereur se réconcilia avec lui et l'éleva, lui et ses successeurs, à la dignité de prince du Saint-Empire romain germanique. Il tenta en vain de servir de médiateur entre saint Thomas Becket et le roi Henri II d'Angleterre. La figure du XIIe siècle dans l'Ain est saint Anselme. Chartreux lui-même, il devint donc évêque de Belley de 1163 à 1178. Il lutte contre les abus et défend le peuple opprimé contre le comte de Savoie. Entre le XIIIe siècle et le XVIe siècle, villes et villages édifient leurs églises paroissiales, d'abord en style roman, puis gothique. Il nous reste dans l'Ain quelques beaux témoignages de l'ardeur et du talent de ces artisans et artistes mis au service de la gloire de Dieu. Dans le lectionnaire d'Emmaüs, il est dit ceci: « Nous recevons l'esprit d'amour qui vient en aide à notre faiblesse, afin que nous chantions la joie d'être aimés de Dieu et de l'aimer. » Le reste importe peu de ce que pensent de nous les hommes, si nous restons fidèles à l'amour que Dieu nous demande de vivre et de transmettre. Il existe un dicton en ce jour de la Sainte Anselme qui dit ceci: en juin, trop de pluie et le jardinier s'ennuie. Dimanche 27 juin, saint Cyril d'Alexandrie, qui fut père et docteur de l'Église et qui mourut en 444. Patriarche d'Alexandrie en Égypte, comme l'avait été son oncle Théophile, il fut un écrivain fécond et un grand pourfendeur d'hérésie. Il fut l'âme du concile d'Éphèse en 431, où fut condamné Nestorius, le patriarche de Constantinople, pour qui le Verbe de Dieu avait habité dans la chair comme dans une tente, et n'était pas homme véritablement. C'est ce concile qui proclama la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, ou Théokos. Lié à la controverse christologique qui conduisit au concile d'Éphèse de 431 et dernier représentant important de la tradition alexandrine dans l'Orient grec, Cyril fut plus tard défini comme le gardien de l'exactitude. Vénéré comme saint aussi bien en Orient qu'en Occident, saint Cyril fut proclamé docteur de l'Église en 1882 par le pape Léon XIII. À la mort de son oncle Théophile, Cyril, encore jeune, fut élu évêque de l'influente église d'Alexandrie en 412, qu'il gouverna avec une grande énergie pendant 32 ans. Deux ou trois ans plus tard, en 417 ou 418, l'évêque d'Alexandrie se montra réaliste en recomposant la rupture de la communion avec Constantinople qui durait désormais depuis 406 suite à la déposition de Jean Chrysostome. Il nous reste la lettre aux moines d'Égypte en 431 de Saint Cyrille qui dit ceci: je trouve très surprenant qu'il y ait des gens pour se demander vraiment si la Sainte Vierge doit être appelée Mère de Dieu. Car si notre Seigneur Jésus est Dieu, comment la Vierge qu'il a portée et mise au monde ne serait-elle pas la Mère de Dieu? Telle est la foi que nous ont transmise les saints apôtres, même s'ils n'ont pas employé cette expression. Comme l'affirme saint Cyrille, ce même Jésus est devenu dans le temps avec la naissance de Marie, la Théotokos, et il sera, selon sa promesse, toujours avec nous. Et cela est important, Dieu est éternel, il est né d'une femme et il reste avec nous chaque jour. Nous vivons dans cette certitude en elle, nous trouvons le chemin de notre vie. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Cyrille. À la semaine prochaine.